Venu d'un pays froid et de glace, les villes et garçons d'arrivée à Artico. Regardez, touchez, ils sont gentils. Vous vous ferez de nouveaux amis. Vous tomberez peut-être à nouveau en amour. Allez, venez nous voir. Artico Marine Land.
C'est déjà là, Marine Land, j'en suis.
Non, mais par contre, la publicité, je l'ai entendue, puis je l'ai chantée en tabarouette, puis j'ai une de mes petites sœurs qui arrêtait pas de la chanter, puis qui me tombait sur les nerfs quand elle l'entendait dans le temps, là.
Mais t'es jamais allé? T'aurais-tu
jamais
ça?
Été. Ben, à l'époque, oui.
Oui, c'est ça.
Quand j'étais enfant, j'aurais rêvé de ça, puis j'écoutais le film Mon ami Willy, puis je tripais sur les épaulards, puis les phoques, puis tout, là.
Même affaire. Moi, je suis allée à SeaWorld une fois quand j'étais très jeune, puis à cause de mon ami Willy aussi, je tripais sur les épaulards. Et pendant très longtemps, même quand j'étais enfant, je me disais plus tard, je vais faire comme les entraîneurs à SeaWorld. Moi aussi, je vais élever des épaulards. C'était ça, là, mon emploi de rêve, ma carrière de rêve. Je voulais habiter près de SeaWorld et travailler là-bas. C'était le cas jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vieillisse puis je développe d'autres intérêts. Mais le point tournant là, dans ma vision de ces centres-là qui utilisent essentiellement des animaux pour faire des spectacles, ça a été le documentaire Blackfish, qui est toujours sur Netflix d'ailleurs,
absolument.
Si je ne me trompe pas.
Oui.
Si vous voulez voir, ce documentaire-là m'a premièrement traumatisé.
Ça shake, hein?
Oui, a mis en lumière une réalité dont on se doutait, mais mettons que je ne pensais pas que c'était de cette ampleur-là. Et ça a été un documentaire pour moi qui a été un point tournant dans ma vision de ce type de parc-là. Et il y a un documentaire qui a été présenté pour la première fois hier à CBC, dont on a en fait zéro entendu parler au Québec, si je ne me trompe pas.
En fait, on va être les premiers à en parler. J'ai vérifié sur Google. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits par les médias anglophones au Canada. Mais comme c'est un documentaire en anglais, il n'y a personne qui en a parlé jusqu'à maintenant.
Bon, le documentaire s'appelle « The Walrus and the Whistleblower », donc « Le morse et le lanceur d'alerte ». C'est un documentaire, en fait, qui tourne autour de l'histoire de Philippe Demers. C'est un ancien employé de Maryland, c'est pour ça qu'on a fait jouer la publicité, qui est devenu finalement lanceur d'alerte pour dénoncer les maltraitances que subissaient certains animaux à l'intérieur des murs de Maryland. Il en a fait son cheval de bataille pendant des années. Il a été poursuivi même par Maryland pour 1,5 million de dollars parce qu'ils ont voulu le faire taire. Alors, on suit son histoire dans ce film-là et surtout, on en apprend davantage sur comment Maryland traitait ses animaux. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir la réalisatrice du documentaire qui est Nathalie Bibeau pour nous en parler. Madame Bibeau, bonjour.
Bonjour, merci de votre intérêt.
Ben, ça nous fait plaisir, Madame Bush. J'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que dans les médias francophones, on n'en a pas parlé encore, mais j'imagine que ça va venir dans les prochains jours. Madame Bibeau, sûrement. J'ai écouté le documentaire ce matin, Madame Bibeau, puis je vais vous dire, ça m'a fait un effet semblable que le documentaire Blackfish avait fait sur moi. C'est-à-dire que je pense que ce sont des documentaires qui sont nécessaires. Pourquoi avoir choisi, premièrement, de porter cette histoire-là, l'histoire de Philippe Demers, à l'écran?
Bien, ça a commencé, en fait, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à observer cette histoire se déployer en ligne. Moi, là, j'ai connu Philippe quand j'étais petite. Donc, moi, je suis une franco-ontarienne qui vient d'une petite ville en Ontario qui s'appelle Welland, qui est juste à côté de Niagara. Et Philippe était un ami de mon frère. Donc, je le connais, ça fait longtemps, mais on n'était pas proches en tant qu'enfant. Moi, j'ai quitté cette petite ville il y a plusieurs années. J'ai habité un peu partout au monde. Éventuellement, je suis venue à Montréal il y a à peu près 5 ans. Et puis, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de son cheminement, il est devenu très, très, très populaire dans les médias pour sa relation avec un morse.
Oui.
Et donc, au tout début, c'était vraiment juste un petit passe-piste, c'était quelque chose, une petite histoire humaine qui était assez légère. Mais 5 ans plus tard, il est sorti encore dans les médias, mais cette fois-ci comme lanceur d'alerte. Puis ça a vraiment capté mon imagination. J'ai commencé à le suivre de très près. Mais j'avais peur, franchement, là, tu sais, de mêler là-dedans puis faire un documentaire sur un gars qui se fait poursuivre et avec d'autres lanceurs d'alerte qui se font poursuivre et les médias qui se font poursuivre aussi.
Ben, c'était ça. Donc, c'est là où je m'en allais parce que connaissant l'historique de Maryland en matière de poursuite, vous étiez inquiète, j'imagine, à l'idée d'aller de l'avant avec un projet comme ça qui allait essentiellement un peu dénoncer Maryland, là.
Effectivement. Donc, ça m'a pris plusieurs années de vraiment d'accepter de le faire, mais aussi d'avoir le courage de me lancer là-dedans. Puis c'est il y a quelques années, je me suis dit, il y avait d'autres réalisateurs qui commençaient à en parler, puis qui disaient, ah, tu sais, on pourrait faire un film sur ça. Puis je me suis dit, non, c'est mon histoire à moi. Je la prenne.
Oui.
Je l'ai pitié à CBC, puis voilà.
Puis là, je veux qu'on parle un petit peu de Philippe Demers. Vous l'avez côtoyé pendant un certain temps. Vous le connaissiez même un petit peu plus jeune. Donc, Philippe Demers est un ancien employé de Marineland. Il a travaillé, entre autres, directement avec les animaux, comme avec les épaulards. En fait, ce que je voulais faire quand j'étais jeune, lui, il faisait ça. Il entraînait des épaulards. Et surtout avec un morse de qui il s'est beaucoup attaché, qui s'appelait Smoochie. Smoochie est vraiment l'essence du documentaire parce qu'on a l'impression que Philippe Demers, sa motivation à dénoncer Marineland, c'était surtout de libérer le morse Smoochie de qui il s'était beaucoup attaché. Mais essentiellement, Philippe Demers, il voulait dénoncer quelle pratique à Marineland exactement?
Il y a des allégations qui sont faites dans le film, donc je vous invite de le visionner. Il est disponible sur gem.cbc.ca en ligne. Il y en a fait plusieurs au fil des années, qui sont disponibles dans les médias aussi. Moi, j'ai accepté d'en inclure quelques-unes de ces allégations pour vraiment peindre un portrait assez clair, mais je voulais pas mettre le focus sur ça. Ce que je voulais faire, moi, c'est vraiment rentrer dans l'histoire humaine de sa bataille. Sa psychologie comme lanceur d'alerte, ses difficultés et aussi le changement de paradigme qu'on vit vis-à-vis cette pratique. Comme vous dites, vous avez changé d'avis après le film Blackfish.
Et vraiment. Et bon, Philippe Demers, comme les auditeurs vont pouvoir le voir dans le documentaire, il a dénoncé, entre autres, les très, très petits espaces dans lesquels sont gardés les animaux, le fait qu'on entraîne les animaux avec la, je sais pas en français, là, deprivation, c'est des privations.
Ouais, c'est ça. C'est de priver les animaux de nourriture, leur donner faim.
Ouais. Je cherchais la traduction exacte, je l'avais pas, mais oui, c'est ça. Dans le fond, on entraîne les animaux en les privant de nourriture pour qu'ils finissent par faire ce qu'on veut. C'est le type de pratique que Philippe Demers a dénoncé. Madame Bibeau, il a été invité, Philippe Demers, 4 fois au Joe Rogan Show. Il a témoigné devant le Sénat canadien dans le cadre d'un projet de loi qui voulait essentiellement empêcher
la captivité des baleines.
Exactement.
Et des pitons fins,
Et d'ailleurs, ce qui était surprenant, c'était de voir que les conservateurs étaient plutôt favorables à Marineland là-dedans. Mais
t'avais un fan du Marineland
là-dedans. C'est un petit peu bizarre. Il a acquis, Philippe Demers, une notoriété très importante en rapport avec son combat. Mais aujourd'hui, Philippe Demers, il est vu comment publiquement, selon vous? Est-ce que c'est un héros ou bien c'est quelqu'un d'arrogant qui s'est acharné sur Marineland, selon vous?
C'est les deux.
Oui, c'est les deux. Hein?
C'est vraiment les deux, oui, c'est ça. C'est comme un héros, c'est aussi un anti-héros un peu. C'est pas un héros classique, tu sais. Donc, je pense qu'il y a aussi un certain genre qui le voit comme quelqu'un qui veut se promouvoir, qui est vraiment là pour faire le gros boss sur les médias sociaux. Par contre, ce que je voulais faire, c'est essayer de montrer son humanité, que oui, absolument, il aime beaucoup l'attention. Oui, c'est vrai, on le nie pas dans le film. Mais ça vient je pense que ses valeurs sont vraiment à la bonne place, puis c'est quelqu'un qui est très honnête, authentique. Et je vais essayer de montrer sa difficulté avec tout ça. Et que sa frustration sur les médias sociaux, qui peut être pas mal hostile, en fait, des fois avec les gens, ça vient d'une vulnérabilité. Il se sent prêt, attaqué par Marineland parce qu'on le croit pas. Ça fait 8 ans là, qu'il essaye de nous convaincre qu'il dit la vérité.
Et le documentaire Blackfish, dont j'ai parlé dans mon introduction, lui a mis en lumière les dangers de mettre des épaulards en captivité et par le fait même la maltraitance de SeaWorld par rapport à leurs épaulards. Ça a eu un impact énorme sur l'industrie, ce documentaire-là. D'ailleurs, aujourd'hui, SeaWorld ne fait plus la reproduction d'épaulards et ils ont cessé les spectacles d'épaulards. Alors, c'est pour montrer l'impact que le documentaire a eu dans l'industrie. Selon vous, s'il n'y avait pas eu le documentaire Blackfish pour un peu brasser la cage des parcs aquatiques, est-ce qu'il aurait été possible pour vous, Mme Bibeau, de faire un documentaire semblable aujourd'hui?
C'est une excellente question. Ce que les gens connaissent pas, c'est que Phil est sorti comme lanceur d'alerte 1 an avant Blackfish. Donc lui, il est sorti en 2012.
Okay.
L'entraîneur dans Blackfish, Dan Branchot, elle est morte en 2010, mais le film est sorti en 2013. Donc lui, il prédate en fait Blackfish. Donc lui, il a fait exploser ça au Canada et à l'international pas mal tôt. Est-ce que j'aurais pu faire le documentaire? Je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que Blackfish est vraiment un symbole du temps, un symbole de l'époque. Donc si c'était pas Blackfish, ça aurait pu être autre chose. Je pense qu'on est rendu à un moment historique qu'on on se questionne beaucoup sur nos relations avec les animaux en général. Donc il me semble qu'il y aurait eu quelque chose, tu sais. Je pense que c'est ça que je crois. Mais ça m'a aidé, c'est sûr, de faire ce film dans ce climat-là. Ça veut pas dire que je ne reçois pas l'hostilité de Marineland. Je la reçois quand même, parce que il y a une résistance au changement à ce niveau-là, qui est très difficile maintenant, en ce moment-là. Mais Voilà.
Ouais. En fait, c'est ma prochaine question. J'imagine que Marineland a été mis au courant de la production d'un tel documentaire qui impliquait Philippe Demers, qui était un peu leur ennemi, en quelque sorte, là, ce qu'on peut dire. Est-ce que Marineland ont tenté de vous contacter durant la production du documentaire ou depuis la diffusion? Est-ce qu'ils ont essayé de vous empêcher un petit peu de montrer ce film-là?
Je vais être honnête avec vous et je vais vous dire oui. J'ai rentré en contact avec eux il y a 18 mois. Je leur ai demandé la participation. Je voulais en fait montrer l'autre côté. Puis c'était pas juste pour être une question de journalisme, c'était vraiment une curiosité humaine surtout après que le propriétaire est mort de Mainland, le propriétaire qui était le chef pendant 60 ans est mort. Et donc, je me suis dit que peut-être la femme ou l'avocat qui est en train de l'aider avec le parc maintenant pourrait donner leur version de l'histoire et peut-être que je pourrais humaniser, en fait, Mainland un peu. Mais j'ai pas réussi. J'ai essayé, j'ai écrit 9-10 lettres. J'ai eu des rencontres, j'ai eu des appels téléphoniques et puis ce que j'ai reçu, malheureusement, c'est une résistance assez extrême. Et maintenant, je vis un peu ça aussi. Donc, voilà.
Ouais. Et en terminant, Madame Bibeau, l'essence du documentaire, en fait, la motivation principale de Philippe Demers, c'était de sauver un morse qui s'appelle le Smoochie. Moi, il me manque 15 minutes à la fin du documentaire. Je vais vous avouer qu'il me manque. Je veux juste, en fait, sans dire de punch ni rien, mais est-ce que la fin est heureuse pour Smoochie, le fameux morse présentement? En fait, le morse dont il est question, ou c'est une fin un petit peu plus malheureuse, mettons?
C'est une fin ouverte. C'est pour ça que j'ai signé le film comme ça. Okay. Ouverte. On ne le sait pas encore. Et il y a plusieurs gens qui m'ont demandé cette question-là. Pourquoi avez-vous décidé de terminer ce film maintenant? Quand est-ce qu'on sait quand un film est terminé, quand l'histoire est terminée? Et pour moi, j'adore les fins ouvertes parce que je trouve que ça peut poser des questions encore plus intenses que si on boucle la boucle très, très bien. Mais je dirais que moi, je voulais aussi faire réfléchir les gens tant qu'à Smoochie elle-même. On croit qu'elle est encore à Marineland. On croit qu'elle est en santé. On ne le sait pas. Mais c'est sûr que ça fait 8 ans que ça ne l'a pas vue. Ouais. Et c'est sûr que ça demeure sa mission principale. Et on verra ce qui va arriver.
Alors, Madame Bibeau, on peut visionner le documentaire sur le site de CBC. Est-ce qu'il y a une autre plateforme? En fait, si on veut le regarder, le documentaire, on se rend où exactement?
Donc, gem.cbc.ca, c'est un peu comme Tout TV. Et aussi, si vous êtes en... il y a personne peut-être qui écoute qui est en Ontario, mais il fait partie du festival Hot Docs maintenant, en ce moment, le festival virtuel, donc il est disponible là jusqu'à la fin juin. Ensuite, il va faire partie du festival à Vancouver, Doxa, en juin aussi. Et je suis en discussion avec des distributeurs américains pour le faire diffuser ailleurs et en Europe. Et au Québec, en fait, je vais parler avec Radio-Canada pour voir si on peut avoir une traduction en français. C'est
excellent.
Ça. Et je vais ajouter, en fait, que il y a un épisode aussi que je suis en train de finir le montage sur CBC The Nature of Things qui est sur le même sujet. Donc, je vais continuer à suivre l'histoire. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe avec Smoochie dans les prochains mois, je vais être capable de l'inclure dans cet épisode qui va être diffusé en octobre.
Parfait. Madame Bibeau, ça m'a fait plaisir de faire un peu la promotion de votre documentaire. Je pense qu'il doit être vu par de nombreuses personnes. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, cet après-midi.
C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie, en fait, parce que étant franco-ontarienne, je veux vraiment que les Québécois écoutent ce film. Ah oui. Donc, vous êtes les premiers et félicitations.
Merci beaucoup, Madame Bibeau. Ça nous a fait plaisir. Merci.
Merci.
Alors, Nathalie Bibeau est réalisatrice du documentaire Le Morse et le lanceur d'alerte de Walrus and the Whistleblower. Vous avez compris que pour l'instant, il est disponible en anglais uniquement, mais elle travaille très fort à avoir une traduction. Si vous comprenez l'anglais à un niveau assez correct pour pouvoir regarder le film, je vous le conseille fortement.
Il y a toujours les sous-titres, Kay.
Oui, il y a toujours les sous-titres, effectivement, c'est vrai. C'est un très bon point. Vous pouvez les regarder avec des sous-titres. Je pense qu'il faut le voir, ce documentaire-là, sincèrement.
Oui.
Si vous avez un minimum de sensibilité à l'égard du traitement des animaux dans ce type de contexte-là, que ce soit dans les zoos ou dans les parcs aquatiques, c'est important de voir ce documentaire-là.
Ouais, il fait pour les mammifères marins ce que Tiger King vient de faire pour les tigres et les félins.
C'est vrai. C'est un très bon comparatif.
Essentiellement.
Oui.
Et on a la chance aussi, Elisabeth, d'avoir pu parler au whistleblower, au lanceur d'alerte en question, ou également Philippe Demers, qui est dans le documentaire et dont l'histoire est racontée. Il n'était pas tout à fait à l'aise de faire l'entrevue en français, alors j'ai fait l'entrevue en anglais avec lui. Je vais vous présenter ses réponses et je vais vous les traduire au fur et à mesure. Donc, première question que j'ai demandé à Phil Demers, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un lanceur d'alerte?
My motivation was that, in every which way that I was trying to help the animals while working at Marineland, I'd realized that it was just not enough and that the problem at its source and core had to be addressed. And so in every which way that I thought that I could help Marineland in-house, I realized the only way to fix this is to, and to make it sure it never happens again, is to make it happen outside of the walls. So really, it was the animal suffering that ultimately inspired me.
Alors, ce que dit Philippe, c'est que la motivation, c'est que peu importe la façon que j'essayais d'aider les animaux à Maryland, ça ne suffisait pas. La seule façon pour moi, c'était de m'assurer que ça ne se reproduise pas, ni à Maryland, ni ailleurs. J'ai demandé par la suite, on en a parlé brièvement avec Nathalie Bibeau, l'aspect de la privation de nourriture.
Oui. Hein,
parce que ça m'a vraiment frappé, parce que tout le monde a vu des spectacles de phoques et d'autres animaux marins dans différents établissements. Et il a dit que tout le monde privait les animaux de nourriture pour pouvoir les entraîner. Je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai cette affirmation-là?
Yes, it's true. It's absolutely true. Not every person is conscious of the fact that what they're doing is making sure the animal is hungry so that they can reward them. But, you know, there's food is not reward unless you're hungry. And the hungrier you are, the more attention the trainer has.
Ouais.
Non, mais ça, c'est frappant, ça, comme affirmation.
Fait que vous comprenez que... Puis, parce qu'il y avait eu différentes allégations partout dans le monde. Entre autres, SeaWorld se vantait beaucoup, se targuait du fait que, eux, leur entraînement avec les animaux, entre autres les épaulards, ça ne se passait pas par la privation de nourriture. Vous comprenez comment ça fonctionne, la privation de nourriture? Tu dis à l'animal, si tu m'écoutes pas, si tu fais pas ce que je veux, tu mangeras pas aujourd'hui. Alors, l'animal finit par comprendre que s'il veut survivre,
exact,
il doit écouter. Et SeaWorld avait clamé haut et fort qu'eux, ils faisaient pas ça, alors qu'il y a eu des allégations contraires de la part d'employés SeaWorld, que c'est exactement de cette façon-là qu'ils entraînaient les animaux. Et à Maryland, on comprend que c'était ça aussi qui se passait.
Tu as parlé de Smoochie, l'adorable
oui.
morse que tente de sauver Philippe Demers. En fait, c'est vraiment particulier parce que dans le documentaire, on comprend qu'il y a un lien très fort entre eux deux parce que Smoochie considère Philippe comme sa mère.
Ouais.
Et ça, c'est très, très fort comme lien. Alors, j'ai demandé à Philippe Demers à quel point c'était fort ce lien-là et qu'est-ce que ça lui amenait dans sa bataille.
It's what fuels me every single day. I mean, if it wasn't for the sake of the power of that bond, I wouldn't have the fuel to keep this fight going. But, you know, as tired and as difficult as it's been, I still have plenty of energy to fight, and that's a testament to our relationship.
Do you have a strong hope to see Smoochie again?
I've never let go of that hope. I've always had it, and it's never been stronger.
Philippe nous dit, c'est ce qui me donne la force de continuer, la force de ce lien. Malgré la fatigue, j'ai encore l'énergie de continuer. Ça en dit long sur mon lien avec elle. Je n'ai jamais perdu espoir de la revoir. J'ai parlé des médias sociaux parce qu'il est très actif sur Twitter. Nathalie l'a dit. C'est un gars qui est rough
ouais.
sur Twitter. Des fois, il est virulent
mais
envers les gens.
Il y a des dizaines de milliers d'abonnés, en fait. Là.
J'ai parlé du côté sombre un peu des médias sociaux hein, parce que autant ouais. ça peut servir à des batailles nobles, autant ça peut servir à des batailles un petit peu moins nobles. Voici ce qu'il avait à dire là-dessus.
Well, for me, the good news is I just have overwhelming support, and my experience has been, you know, really, really positive. I think it's important that you have a platform that everyone is able to offer their viewpoints. It is a strange place that you can use it to weaponize, and you hope that, you know, in all ways, shapes, or form, anything can be weaponized for evil doing. But you hope that people maybe find a more sensible resolution when feeling the need to express themselves. Maybe not do it so voraciously. Like, you know, I understand that people, and me especially, I mean, I can attest to what it feels like to want to be heard. So, I mean, I know the frustration, but, you know, the platform isn't the answer for everybody. And I was just very lucky that for me, it serves me very well.
Alors, Philippe me répond, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai eu beaucoup de support sur les médias sociaux. C'est important qu'il y ait une plateforme pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais évidemment, ça peut être utilisé comme une arme. Peut-être que les gens devraient les utiliser moins férocement. Voraciously, c'est ce qu'il dit. Mais pour moi, ça a été positif et utile.
Mm-hmm.
À un moment donné, dans le documentaire, Elisabeth, t'as peut-être remarqué la scène du barbecue où est-ce qu'il se fait cuire des steaks. Et on apprend que oui, il défend les animaux, mais il est pas vegan, il est mm-hmm. pas végétarien.
Ouais.
Et à cause de ça, il y a des vegans qui le détestent, qui ne l'appuient pas. J'ai demandé de s'exprimer là-dessus.
I mean, I'll say this. I believe that people should, in every which way, shape, or form, fight for what they believe in. And sometimes that requires making other people uncomfortable. And I'm a target for that. And I've been uncomfortable. And in the same way, I've made other people uncomfortable. The thing that I just can't necessarily process is that, you know, I got a lot of attention and people know who I am because of this fight that I've done, which has largely inspired people. And, you know, as a meat eater fighting for animals, you know, perhaps if every meat eater fought for animals, maybe we can advance the vegans' agendas collectively. If the vegans maybe weren't, if some vegans weren't so busy trying to alienate people that just aren't making their grade. It is just a strange thing because, yeah, I didn't go into this for anyone's necessary approval, but you know, with everyone's help and support, we can really move the needle here. We can really accomplish amazing things. It just astonishes me that, you know, some people will philosophically want to support you, but won't, and by virtue of actually harm, you know, really, really productive causes.
Phil Demers dit, je crois que les gens doivent se battre pour ce qu'ils croient et ça rend certaines personnes inconfortables. J'ai eu beaucoup d'attention. Si tous ceux qui mangent de la viande se battaient pour les animaux, ben en fait, on avancerait les objectifs des vegans. C'est dommage que certains vegans, par contre, se battent contre toi et donc nuisent à une cause qui est importante et qu'ils partagent.
Mais ça, c'est pas juste du tout parce que moi, je suis pas vegan du tout. Puis cette cause-là m'a touché profondément. Puis si j'avais eu l'opportunité d'entrer dans cette bataille-là, ben peut-être bien que je serais entré à l'intérieur
mais
de cette bataille-là.
Mais tu sais qu'il y a des vegans qui auraient dit, oh, t'as pas le droit de parler parce que tu manges de la viande.
C'est ça. Ben gardez, battez-vous tout seul à ce moment-là. Vous avez des alliés qui veulent défendre une cause commune avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec les gens. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas partager une bataille commune, par exemple. C'est ça que des fois, qu'il y a certaines personnes qui sont très extrêmes dans leurs croyances. C'est le genre de choses qu'ils ne comprennent pas. Tu n'es pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais si tu as un filon qui t'accroche à l'autre personne et que vous avez la même pensée sur cette bataille-là, puis vous en allez dans la même direction, bien, alliez-vous, puis allez-y, tu sais.
Puis en terminant, j'ai demandé à Phil quel était son message à ceux qui disent « Ouais, mais moi, je pense qu'on devrait continuer dans les zoos, tout ça. » Puis là, encore une fois, c'est son opinion à lui. Je suis pas en train de dire, moi-même, j'étais dans les zoos puis j'ai taponné des bébétiques, tout ça.
Oui.
Fait que je suis pas en train de lancer la pierre à qui que ce soit. Mais j'ai demandé à Phil, lui, son message personnel aux gens qui pensent que ces lieux-là devraient continuer de fonctionner de la façon qu'ils fonctionnent.
Well, my message for them would be watch the documentary. If at the end of the documentary, you aren't convinced that that these places harm animals far greater than any good that could come out of it, then I don't know that I can convince you. So there will always be a small portion of population that support these places, but because that's an ever-diminishing number, eventually those places won't exist. So I would say enjoy your short period on the wrong side of history because we're wiping zoos out.
Alors, il est sans compromis dans sa réponse. Il dit, mon message, regardez le documentaire. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a plus de mal que de bien à cet endroit et dans ce genre d'endroit, je ne sais pas comment vous convaincre. Un jour, ces endroits n'existeront plus. Alors, profitez de votre courte période du mauvais côté de l'histoire parce que nous allons fermer les eaux. Alors, et comme je vous dis, il y a un point de vue très, très radical.
Très tranché.
Là-dessus, très tranché.
Mais je salue, par exemple, le temps et l'énergie qu'il a mis dans ce combat-là parce qu'une chose qui est sûre, c'est que Marineland ne serait pas au point où elle est présentement sans Philippe Demers et sans le combat qu'il a mené avec beaucoup d'énergie contre les pratiques de Marineland. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Smoochie, le fameux morse qui est dépeint dans le documentaire. Vous allez apprendre à la connaître. On finit puis on est très, très attachés à cet animal-là. Puis ça brise un peu le cœur de voir de quelle façon elle est traitée là-bas. Alors, les auditeurs, en passant, 25-226, qu'est-ce que vous pensez d'un parc comme Marineland ou SeaWorld? Est-ce que vous êtes déjà allé? Est-ce que vous pensez que ce genre de pratique-là s'est révolu puis qu'il faut passer à autre chose? Et sinon, je vous encourage fortement à voir le documentaire The Walrus and the Whistleblower qui est disponible pour l'instant uniquement en anglais, mais vous pouvez l'écouter avec des sous-titres en français sans problème. Et la réalisatrice, d'ailleurs, aimerait beaucoup le faire traduire en français éventuellement.